Bonsoir. La délégation conjointe de la présidence de la RDC et l'ambassade du Kenya à Kinshasa vient d'achever une mission de près de 10 jours dans l'est du pays dans le cadre du processus de Nairobi. Pendant environ une semaine, la délégation a consulté des leaders communautaires et groupes armés à Goma, Bunia, Beni et Bukavu en vue de leur implication dans le programme national DDRCS. Au terme de cette mission, la délégation s'est dit satisfaite et confiante de ses consultations en attendant les travaux de Nairobi 2 prévus dans les prochains jours. Quelle analyse faire de ces consultations pour le retour de la paix dans les provinces de l'est du pays? Nous en parlons ce soir avec le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du président de la République et chef de la délégation de la présidence de la République aux consultations de Nairobi. Professeur Serge Tshibangu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean-Marie Ndjanza, vice-président de l'association culturelle Lori, qui regroupe la communauté Lendu. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Jean-Marie Ndjanza, bonsoir.
Bonsoir, madame. Merci de nous avoir associés à ce débat.
Et Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly. Bonsoir aux auditeurs et à mes co-débatteurs.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Kapi à réagir au thème de ce soir. Albert Colombella, depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. L'initiative de consulter les groupes armés est louable pour retrouver la paix dans la partie est de la République qui fait face à l'insécurité grandissante. Plus on négocie avec les groupes armés, plus l'insécurité devient grandissante. À mon avis, le gouvernement congolais devrait se baser d'abord sur l'option militaire pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. À Bunia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Au sud Kivu, la délégation conjointe de la présidence de la RDC et l'ambassade du Kenya s'est dit satisfaite et confiante de toutes les consultations avec les groupes armés, ce à l'issue de la mission qui a conduit cette délégation dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Le mandataire spécial du président de la République affirme avoir obtenu l'adhésion de la majorité des groupes armés à déposer les armes et rejoindre le programme DDRCS. Le professeur Serge Tshibangu a aussi salué l'accompagnement reçu de la MONUSCO et de toute la communauté internationale. Pendant ce temps, les leaders des communautés tribales du Sud Kivu se disent favorables à la démarche actuelle du gouvernement congolais de mettre fin à l'activisme des groupes armés. Ils se sont exprimés dimanche 22 mai à Bukavu à l'issue des consultations avec la délégation mixte présidence de la RDC et l'ambassade du Kenya. Emmanuel Elameji pour le reportage.
Cette délégation conjointe s'est entretenue pendant plus de 4 heures avec le Barzin intercommunautaire du Sud Kivu, une structure qui regorge les représentants de plus de 15 communautés tribales qui renferment les groupes armés. Professeur Serge Tshibangu, mandataire du chef de l'État, leur a passé le message qui veut que tous les groupes armés soient démobilisés sans condition aucune. Le Barzin intercommunautaire s'est dit confiant en cette démarche du président Tshisekedi. Monsieur Emmanuel Moussolé, président du Barzin intercommunautaire, insiste pour que le PDDRCS soit vite opérationnel et qu'aucun criminel ne soit récompensé à travers l'armée nationale.
Nous avons accueilli ce message avec satisfaction et avec beaucoup de joie. C'est vraiment à féliciter le président de la République Tshisekedi. Non seulement nous les rassurons, mais nous avons pris l'engagement tout à l'heure de l'aider en tant que père, en tant que grand-père, de dire à nos enfants de quitter. Mais nous incitons sur une chose. S'ils quittent et qu'ils réintègrent la vie civile, il faut qu'ils soient encadrés. Parce que dans le temps, les groupes armés, une fois sortis, les responsables sont nommés ministres, sont nommés généraux.
L'ambassadeur du Kenya, M. Wanyonyi Georges Massafou, a réaffirmé l'engagement de son pays à aider la RDC à sortir de ses conflits armés. Emmanuel Elami Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Merci Emmanuel pour ce reportage. Professeur Serge Tshibangu avec nous dans ce studio. Vous êtes mandataire spécial du président de la République et chef de la délégation de la présidence de la République aux consultations de Nairobi. Vous revenez d'une tournée dans les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que dans l'Ituri pour consulter certains groupes armés et leaders communautaires afin de préparer la deuxième phase de la rencontre de Nairobi dans les prochains jours. Mais avant de nous dresser le bilan cette tournée, professeur, actualité oblige, quelle lecture faites-vous des combats qui ont repris entre les FRDC et le mouvement M23 dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo Nord Kivu?
Madame, je vous remercie d'abord de m'avoir invité et pour la question. Je salue également les auditeurs de la Radio Capi ainsi que mes co-débatteurs qui sont en ligne. Alors pour répondre à votre question, c'est bien sûr toujours des sentiments de tristesse et en même temps de frustration. Je dirais même beaucoup plus loin, c'est des sentiments parfois de colère qui nous animent, malgré que nous devons chaque fois garder notre tête froide et sur les épaules. Mais en fait, nous ne sommes pas très surpris de ce qui est en train de se passer, pour la simple raison qu'il vous souviendra que lors de Nairobi 1, nous avions commencé les discussions et le M23, au début, faisait partie de ces discussions. Et dès le début de ces discussions, les après-midi, nous avions reçu le message que le M23 avait donc déclenché des hostilités sur le mont Bugusa. Et nous avions donc demandé et obtenu l'exclusion du M23 de ces discussions. Donc, cela montrait déjà que, quelque part, il y avait de la mauvaise foi de la part des combattants du M23 qui n'étaient pas tellement prêts à entrer dans ce processus de paix initié par Son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors aujourd'hui, la situation s'est dégradée. Mes sentiments de tristesse, c'est surtout parce que généralement, ce sont les populations, les communautés civiles qui en souffrent, qui sont généralement déplacées. Il y a sûrement des morts, mais aussi parce que cette population de ce coin a beaucoup souffert. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a lancé ce processus dont je voudrais préciser qu'il n'est pas question de négociation avec les groupes armés. Il est plutôt question de les appeler à déposer les armes, à se rendre inconditionnellement. Cela fait suite, bien sûr, à la recommandation que le chef de l'État a donnée et soutenue par les autres chefs d'État de la région.
Professeur Serge Tshibangu, cet activisme du M23, est-ce que ce n'est pas la conséquence de leur expulsion des consultations, une façon pour eux d'exprimer leur mécontentement?
Disons que je ne pense pas, parce que, comme j'ai dit, dès le premier jour des discussions, ils avaient déjà quand même repris le chemin des armes, pendant que les autres observaient un cessez-le-feu. Donc, je crois que le M23 était déjà en position de reprendre les hostilités de toutes les façons. Et en plus de ça, le 8 avril, je veux dire le 23 avril quand nous étions avec eux, n'oubliez pas que les hostilités avaient commencé déjà depuis fin mars. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils étaient que c'est une conséquence du fait qu'ils avaient été expulsés, mais je pense plutôt que ça ne fait que confirmer que nous avions pris une bonne décision de demander leur expulsion.
Une certaine opinion estime qu'il faudra les réintégrer dans ce processus pour écouter leurs revendications. Est-ce envisageable?
Tant que les armes vont continuer à crépiter, je ne pense pas que c'est la logique de ce processus. Parce que l'esprit même de ce processus, c'est de se dire, mettons-nous dans un environnement de quiétude pour nous permettre de discuter. Et cette discussion, qui n'est pas une négociation, c'est en fait de leur dire, le chef de l'État vous tend la main dans un processus là où il vous demande de déposer les armes et de rejoindre le processus de paix qui passe par, bien sûr, le PDDRCS, qui est aussi une initiative du chef de l'État. Alors, cela est incompatible avec le fait que les balles sont en train de siffler dehors et dans la salle, vous êtes en train de discuter sur ce processus de paix.
Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a accusé le Rwanda d'être derrière ce mouvement. Est-ce son point de vue à lui ou c'est le point de vue du gouvernement congolais?
C'est le point de vue du gouvernement congolais. Moi, bien sûr, je suis là pour représenter le chef de l'État, mais je sais que le VPM de Tundula, s'il l'a déclaré, c'est parce qu'il a sûrement tous les éléments nécessaires qui confirment que le Rwanda serait en train d'appuyer le M23.
Parlons à présent de votre tournée dans l'Est du pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces consultations faites avec certains groupes armés et leaders communautaires? Disons un petit bilan global de ces consultations, professeur Serge Tshibangu.
Je pense que vous avez suivi la réaction déjà des communautés, notamment de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et je pense que nous nous appuyons sur ces sentiments de satisfaction, ces sentiments de joie autour de cette initiative qui a été prise par son Excellence le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, dans ce sens que les groupes armés à près de 90% ont pris l'engagement de déposer les armes et de rejoindre le processus PDDRCS. Surtout parce que la plupart d'entre eux se définissent comme étant des groupes de protection de leurs communautés respectives. Alors, puisque ces groupes ont été créés avant le régime Tshisekedi, dans le régime passé, dont l'État était pratiquement inexistant, l'État ne jouait pas son rôle de protection des communautés, de protection du territoire, ainsi que la plupart de ces groupes armés s'étaient retrouvés en train de recruter et aussi prendre possession des armes. Alors aujourd'hui, qu'ils voient que l'État vient vers eux, que l'État joue son rôle de protection de ses citoyens, c'est ainsi qu'ils sont tous, prêts, en majorité, à déposer les armes et rejoindre ce processus de paix du président Félix.
Combien de groupes armés avez-vous consulté depuis les débuts du processus de Nairobi jusqu'à la fin de votre tournée dans l'est du pays?
Au total, nous avons compté 56 groupes armés, dont 21 sur les 23 étaient à Nairobi avec nous. Donc, il s'agissait donc de réitérer pour ceux qui étaient à Nairobi avec nous l'appel de garder donc l'esprit dans le processus de paix, et pour le reste il s'agissait de leur passer le message qu'ils avaient déjà sûrement entendu, mais aussi en préparation à Nairobi 2. Donc ça fait quand même un bon nombre de groupes armés qui ont répondu présent à nos consultations.
Est-ce qu'ils ont tous la même revendication ou bien il y a des spécificités selon les provinces?
Selon les provinces, disons que c'est plutôt au niveau des dynamiques. La dynamique est généralement différente quand c'est l'Ituri ou c'est le Sud Kivu ou encore le Nord Kivu. Parce que, par exemple, les groupes armés de l'Ituri, eux-mêmes s'identifient aux communautés de l'Ituri, même si les communautés nous ont tous confirmé qu'ils n'ont pas de groupes armés qui sont attachés à eux. C'est généralement un stéréotype dans ce sens que vous avez des groupes armés qui sont composés en grande partie des membres d'une seule communauté. Donc, ça, c'est une spécificité qu'on a remarqué en Ituri. Au Nord Kivu, c'est un peu tout un mélange des communautés qui se retrouvent dans des groupes armés. Et au Sud Kivu, c'est plutôt des groupes armés qui s'identifient à des locations géographiques. Par exemple, vous avez des situations là où ceux de Walikale s'identifient à cette situation géographique. Vous avez ceux qui sont un peu en dehors de Goma. Donc vraiment tout dépend de la situation géographique par rapport à la province du Nord.
Vous avez annoncé Nairobi 2 dans les prochains jours. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Ça sera la poursuite des consultations où il y a des choses concrètes qui vont se faire.
Alors, Nairobi 2, c'est aussi le conclave 3, le troisième conclave des chefs d'État. C'est en fonction de ce conclave des chefs d'État, là où il y a notamment une restitution, y compris de notre tournée que nous avons faite. Et j'aimerais prendre cette opportunité pour préciser que la délégation mixte, c'est président de la République et c'est plutôt délégation kenyane, dont l'ambassadeur du Kenya était à la tête, parce que nous avons eu parmi eux des diplomates venant du Kenya qui ont rejoint donc la délégation. Donc ça sera donc présenté cela, mais aussi, je peux vous le dire déjà, il y a également la partie militaire. dont les termes de référence seront présentés au chef d'État pour avoir leur endossement par rapport à cela.
Jean-Marie Ndjanza, vice-président de l'association culturelle Lori, qui regroupe la communauté lindou dans la province d'Elitouri, quelle analyse vous faites de ces consultations pour le retour de la paix dans les provinces de l'Est du pays?
Merci pour cette question, madame. L'analyse que nous faisons, c'est celle de savoir est-ce qu'au moins aujourd'hui, le gouvernement congolais, à travers la présidence, a compris le souhait ou alors les revendications de ces groupes armés. Parce que, comme vous venez de suivre le terrain qui vient de me précéder, il dit que on est en train de pousser les groupes armés à pouvoir accepter les PDDRCS. Au même moment, il y en a qui, des délégations qui sont arrivées avant ces consultations en Ituri pour des mêmes consultations, mais il y a eu incompréhension entre le groupe armé et ses délégations, notamment quand le groupe armé sont en face de ses visiteurs, ses délégations, le groupe armé parce que il s'agit des négociations. Est-ce que de là, cette fois-ci, on peut croire que les petites différences dans le passé pourront être endiguées pour que les groupes armés comprennent qu'il n'est pas question de négocier, comme il venait de le dire tout à l'heure, et qu'il est question de pousser les groupes armés à déposer les armes en vertu de l'ordonnance présidentielle qui a créé le PDDRCS. Parce qu'avant même la création de ce programme, il y avait encore des consultations où il y avait des cahiers de charges que les groupes armés tels que CODECO réclament jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des petites questions comme ça qui nous laissent dans l'embarras. Et pour tout foutre à l'air, les groupes armés qui avaient déjà eu de tels contacts comme ça, ils disent qu'aussi longtemps que leur cahier de charges présenté entre les mains des délégations venues de Kinshasa ne sont pas d'accord, respectés, ils ne seront pas ouverts. Et la conséquence, c'est que c'est la population civile qui perd tout. La population civile ne bouge pas. La population civile ne peut pas quitter la ville de Bounia, par exemple, pour atteindre Komanda à 75 km sans problème. La population a pâti. Il se pourrait aussi que dans ces consultations, on est en train de miser sur la capacité de nuisance de certains groupes armés. Ici, je peux donner l'exemple de MB3. MB3 qui a comme mission depuis longtemps de conquérir le pouvoir par les armes. Tandis que les groupes armés en Ituri comme CODECO, FPIC, Zaïre, Mazembe, ce sont des groupes qui, lorsque vous leur posez des questions, ils vous disent qu'ils sont en train de protéger leur communauté. Celui qui est venu devant moi, vous avez suivi, il a dit, mais il a constaté aussi que ces groupes armés sont liés à leur communauté. Il y a plusieurs questionnements autour des clarifications de ce qu'on entend exactement de ces consultations-là.
Vous estimez qu'il y a une sorte de confusion sur la terminologie, sur les termes utilisés?
Oui, il y a des confusions. Quand on dit aujourd'hui consultation, avant on disait sensibiliser. Donc ce sont des termes similaires qu'on utilise et qui embrouillent les groupes armés, et les groupes armés ne savent pas où est-ce qu'on est en train d'aller au finish. Alors si, comme on vient de dire, que le point de chute, c'est d'arriver de s'approprier les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, dans ces cas-là, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que depuis qu'on a lancé les PDDRCS, depuis qu'on a nommé la coordination nationale, depuis que le coordonnateur national des PDDRCS est arrivé en Ituri pour lancer le programme, mais la mise en œuvre pose le problème à quel niveau? C'est là la question que tout le monde pose. Au moment où nous sommes ici, nous sommes en train de, nous de la communauté lindou, nous sommes en train de préparer un dialogue intra-communautaire. Et nous avons sollicité au gouvernant
de ces pays à accepter que nous puissions inviter dans ces débats les responsables des groupes armés tels que la CODECO qui prétend défendre la communauté hindoue. Est-ce que nous allons dire à ces gens-là où est le PDDRCS? Parce qu'ils nous posent la question. C'est ça les difficultés auxquelles les leaders communautaires qui essaient de jouer les ponts entre le gouvernement et les groupes armés sont butés. Voilà.
Mais je pense que lors de ces consultations, le professeur va me confirmer, hein, la délégation a été un peu plus claire par rapport à ce que recherche la présidence de la République. Il ne s'agit pas des négociations, il a répété encore une fois au début de cette émission, il s'agit de consulter les groupes armés pour essayer de trouver ensemble des solutions. Est-ce que cela ne suffit pas, Jean-Marie Ndjanza?
Cela serait suffisant si seulement si le programme aurait déjà été là. On dit que, voilà, on vient de nommer l'équipe provinciale de PDDRCS et qui s'emploie à identifier déjà où est-ce que les gens qui sont animés par la bonne volonté de déposer les armes pourront se regrouper. Alors, on dirait que la volonté est là. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu, jusqu'à aujourd'hui, les animateurs de PDDRCS au niveau provincial ne sont pas encore nommés. Celui qui est déjà fatigué de porter les armes, il va aller rendre les armes où? C'est là le grand problème, madame.
Donc c'est la mise en œuvre du programme qui pose un problème selon vous. Merci Jean-Marie Ndjanza, Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés Kivu. Vous êtes actuellement expert en désarmement et en droit international humanitaire. Votre point de vue sur ces consultations pour le retour de la paix dans les provinces et l'est du pays?
Merci Madame Kelly, je salue encore une fois mes co-débatteurs et tous les auditeurs de Radio Okapi. Un point de vue par rapport aux consultations, c'est de la même manière que je l'avais dit en introduction, quand on discutait encore autour de ce sujet avec le professeur Tshibangu et je crois le député provincial de Goma. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le gouvernement devrait cesser de plonger les gens dans une confusion architecturale hein, qu'il entretient de manière délibérée, sans savoir quelle est la chute, ou il va chuter avec toute autre procédure qu'il met en place. Je vais vous donner au moins la lecture professionnelle de ce que je constate dans le chef du gouvernement. D'un côté, le gouvernement va à Nairobi par l'entremise du gouvernement kenyan de faciliter un dialogue, un quelconque dialogue, ou je ne sais pas comment on les qualifie, avec des groupes armés locaux qui sont installés en République démocratique du Congo. Mais dans l'entretemps, le même gouvernement avait déjà nommé, là je parle de la présidence, avait déjà mis en place une superstructure qu'on appellerait PDDRC qui devrait s'occuper notamment du regroupement, du désarmement, de réinsertion, de réorientation telle que vous le voulez, sur les terrains au Congo. Alors, je me pose la question, négocier ou dialoguer ou consulter les groupes armés à Nairobi, d'abord, est-ce le gouvernement qui consulte les groupes armés pour les amener où ou pour arriver à quelle conclusion? Là, il y a toute une question. De deux, le rôle même du programme PDDRC, c'est lequel? Qu'est-ce que veut ce programme-là? Quelle est son action et concrètement, il est impliqué dans quoi? Dès lors que la présidence de la République, avec autant de structures, ont déjà décidé d'aller de l'avant pour consulter les groupes armés. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, j'entends ici les gens parler du désarmement des groupes armés où les groupes doivent accepter de déposer les armes. Je veux rappeler, moi je suis originaire de là où se passent toutes ces histoires. Je me demande, quel est le seul groupe qui avait tenu face au gouvernement en lui faisant la guerre ou, disons, qui a tenu tête au FRDC en lui faisant la guerre pour lui déclarer ou lui exiger 1, 2, 3, 4, hormis le cas de Codeco. Mais ce qui se passe à l'est du pays, notamment au nord et au sud Kivu, c'est une question des groupes armés d'autodéfense. Il faut que ce soit défini comme ça. D'où vient le problème? Le problème vient assez souvent lorsque ces groupes se rendent et que derrière eux, certains se voient, donc certains membres voient leur famille menacée par des forces extérieures. C'est en ce moment-là qu'ils se regroupent, ils se rassemblent et prennent les armes pour se défendre.
D'autres groupes sont des groupes opportunistes qui sont créés par des acteurs politiques et notamment des officiers militaires qui tirent leur épingle de jeu dans l'instabilité. Ils sont utilisés pour l'exploitation des minerais, d'autres sont utilisés pour l'exploitation de bois et ainsi de suite, et donc des ressources naturelles de manière générale. Alors quand on dit on veut les consulter, le gouvernement va donner quelle solution? Je pense que c'est déjà un canard boité qui est en face de nous et du coup, on se retrouvera dans la même situation que celle que nous sommes en train de déplorer. On ne peut pas GI à inciter ici, on ne peut pas chercher à résoudre un problème en utilisant la même méthodologie pour s'attendre à un résultat différent. Ça donnera le même résultat parce que vous utilisez la même procédure. Troisième chose, vous avez à poser la question au représentant du président que le M23 venait de lancer des hostilités contre l'armée congolaise. Mais ces hostilités-là, je vais poser la question d'ailleurs au représentant du chef de l'État. Est-ce qu'est-il au courant que le M23 est un mouvement qui n'existe plus dans les faits? Parce que selon moi, en tant que signataire de l'accord de paix de Goma du 23 mars, c'est donne la paternité, disons, dont se donne le pouvoir, les M23, d'en revendiquer les contenus, je suis négociateur principal pour le compte des groupes armés à Nairobi comme à République démocratique du Congo à Goma. Quand on a signé ces accords, c'était moi à côté de l'ex-ministre Raymond Tshibanda qu'on négociait cet accord et qu'on l'avait signé. Je me demande, quand on qualifie le M23 d'un groupe armé qui menace parce qu'il revendique les accords, au sein du M23, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a signé ces accords. Aucun n'a participé même aux négociations ou pour parler qu'on a tenu à différents niveaux. Ce mouvement aurait pris une autre appellation au lieu d'être appelé M23, sinon moi-même je me dirais que je suis également du M23, pourtant ce n'est pas le cas. Or, ce groupe avait bénéficié de la mise en œuvre de cet accord à 75% en intégrant toutes leurs forces au sein des FARDC, en donnant des grades, et ainsi de suite. Il y a des généraux, vous les connaissez vous-même. Vous, surtout de Radio Okapi, vous avez accompagné ce processus. Alors je me dis, de quel M23 le gouvernement parle? De quel M23, le soi-disant M23 lui-même parle? Parce qu'il n'y a plus de M23, aucun autre groupe ne peut revendiquer ses accords. Ça, c'est déjà fini. Sinon, l'ensemble des groupes que le gouvernement est en train de consulter sont des groupes qui ont été représentés aux négociations de Goma qui ont produit l'accord. Et ces groupes-là doivent également revendiquer au même titre que les M23. Et le gouvernement n'aura pas de réponse à donner.
Alors, Didier Bitaki, parlons de la démarche du gouvernement ou de la présidence de la République. Vous estimez que ça ne donnera pas des résultats escomptés parce que vous estimez qu'on a déjà essayé ça plusieurs fois, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous proposez pour que ça marche, pour que ça aide l'avant, pour que ces groupes armés acceptent de déposer les armes?
J'aurais à donner la proposition juste vers la fin. Mais je voudrais dire ceci. La démarche de la présidence de la République est une confusion de trop sur celle qui existe déjà.
Vous l'avez déjà dit, Didier Bitaki. On veut des solutions.
Voilà. Si on veut des solutions aux problèmes de l'Est, surtout de l'existence des groupes armés, ces groupes armés-là locaux ne posent aucun problème au gouvernement. Parce qu'ils sont là, ils ne se battent jamais contre le gouvernement. Le gouvernement devrait aller à Kigali pour dire à Paul Kagame, « Monsieur Kagame, vous menacez l'intégrité de notre territoire en imposant la guerre chez nous, en envoyant des armes là-bas, en utilisant certains Congolais comme des brebis galaises, en faisant des supplétifs à votre pouvoir pour servir de béquilles. » Donc, afin de déstabiliser la RDC et peut-être tirer vos intérêts à partir de l'instabilité du pays. Lorsque le gouvernement aura fini à négocier avec le Rwanda et aura trouvé des compromis définitifs, en ce moment-là, il n'existera plus de groupes armés parce qu'il n'y aura plus de M23 et les autres groupes autochtones qui défendent leur territoire vont disparaître et même certains viendront même déposer les armes comme ce fut le cas parce qu'on avait déjà essayé ça.
Merci Didier Bitaki. On va prendre à présent ces nombreux auditeurs qui appellent pour intervenir, pour donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre en Ituri pour écouter Justin.
Moi, je suis de gauche, j'étais à partir de Bounia, à Mitouri. À mon humble avis, le temps n'est pas à la négociation avec ce groupe qui cherche à nature les efforts de notre chef de l'État qui se bat nuit et jour pour le sort de notre peuple. Alors, le gouvernement doit doter nos militaires des moyens efficaces pour traquer une fois pour tous ces groupes. Il y a eu autant de négociations. La task force a négocié avec les Codeco, avec Chimia Kilima. Mais aujourd'hui, ça n'a rien donné comme solution. Ça signifie que les négociations ne peuvent pas donner des solutions. Par conséquent, notre gouvernement doit doter notre armée pour affiner une fois pour toutes. Merci.
Professeur Serge Tshibangu, cette confusion, consultation, négociation, on ressent ça même dans les réactions des auditeurs. Comment vous réagissez à ce que vient de dire cet auditeur?
Madame, en fait, ce que Justin est en train de dire, c'est l'avant les rencontres avec les groupes armés et les leaders de communautés, s'il y avait confusion, ce qui est sûr, que je vous garantis, qu'en sortant de ces consultations, ils ont une vue claire que ce n'était pas des négociations, de un, et de deux, consultation parce qu'il y a eu des cas, je peux vous dire la vérité, il y a eu des cas là où des groupes armés nous disaient par exemple, nous sommes prêts à déposer des armes, mais dans notre région, il n'y a ni police, ni force de sécurité, ni FRDC. Ça nous a permis de dire, ok, dans ce genre de cas, déjà, nous pouvons rentrer de notre côté et probablement et avec la MONUSCO et avec les FRDC, voir comment on peut déployer des FRDC et notre armée, je veux dire, soit la police ou encore la MONUSCO dans ces régions. Voilà. C'est parce qu'on les a écoutés, finalement, pour dire, bon, ça va, nous pouvons voir comment nous pouvons combler certains besoins qu'il y a dans les régions, vous voyez. Il y a des autres endroits là où c'était juste un problème d'infrastructure. Et ça nous permet de dire, est-ce qu'en réglant un problème, par exemple, d'un pont, ça permettrait à nos forces de sécurité de pouvoir intervenir à temps, parce qu'il n'y a pas de route ou des endroits inaccessibles. Il est parfois difficile que les forces de sécurité interviennent, même quand ils sont prévenus qu'il y a un danger qui est en train de venir. Donc, je ne pense pas que ceux à qui ce message était destiné, notamment les groupes armés ainsi que les communautés pour permettre de rassurer que ces messages sont arrivés, je ne pense pas qu'eux sont sortis de ces consultations confus ou embrouillés. Au contraire, ils ont une vue claire parce que vous avez sûrement suivi les interventions des leaders des communautés. Vous avez parlé de la Barza communautaire au niveau de l'Ituri, là où ils ont confirmé qu'ils sont très contents du message que le chef de l'État a passé à ces groupes armés.
La plupart des responsables des groupes armés sont favorables au processus de démobilisation et réinsertion communautaire. Y a-t-il des moyens pour leur prise en charge pour éviter ce qu'on a connu avec certains groupes armés qui ont accepté de se rendre? Malheureusement, la prise en charge avait posé problème et ils sont retournés en brousse.
Alors, je voudrais préciser quelque chose, madame. Ici, je ne représente pas le PDDRCS, même si dans l'équipe de consultation de la présidence, nous avions la coordinatrice adjointe, Madame Patricia Toulouka, qui faisait partie de ces consultations. Quand on avait besoin de donner des précisions sur le PDDRCS, c'est elle qui donne ces précisions. Alors, c'est vrai qu'il y a dans les rails une dénomination qui sont attendues, notamment celle des coordonnateurs provinciaux. Je crois que c'est ce qui va faire avancer les choses. Mais entre-temps, sachant que il y a des groupes armés qui ont attendu d'ailleurs le PDDRCS pendant 8 mois, certains qu'on a rencontrés, il y a certains pendant 6 mois, pendant 7 mois, ce que nous leur avons dit, nous sommes prêts, si aujourd'hui ils sont prêts à déposer les armes, il y a généralement la MONUSCO et les FARDC qui sont prêts à les aider à déposer ces armes, mais entre temps, il y a une transition, et dans cette transition, je crois avec les partenaires, nous sommes prêts à les prendre en charge en attendant qu'ils soient reversés donc dans le programme de PDDRCS. Donc, effectivement, nous sommes prêts parce que nous avons rencontré certains groupes armés, c'est vrai, qui disent que eux, de toute façon, ils s'étaient déjà présentés pour être démobilisés, mais la structure ne suivait pas. C'est dans ces conditions que nous sommes dit, voilà, nous allons mettre sur pied un petit programme qui va permettre à ceux qui sont prêts à être démobilisés, nous pourrons les prendre en charge pendant un certain temps afin de le reverser après sur le PDDRCS.
Jean-Marie Ndjanza, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient du Kasaï central.
C'est Moïse qui, depuis la ville de Kamanda, province Kinshasa centrale. Ce processus est salutaire, mais l'insécurité, les tueries, les massacres sont toujours signalés dans les zones chaque jour. Nous interpellons la conscience des leaders communautaires et les groupes armés de respecter l'accord lors de la rencontre à Nairobi, nos frères sont tués chaque jour. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix vraiment.
Cet auditeur vous interpelle, Jean-Marie Ndjanza.
Il ne passe pas un jour sans que nous puissions entendre parler de l'assassinat, des massacres de paisibles populations, notamment en Ituri, dans le territoire de Djougou, Irumu, même dans le territoire voisin de Beni, au Nord Kivu. La préoccupation a déjà touché tous les leaders d'opinion, tous les leaders communautaires. C'est pour cela que les leaders communautaires s'emploient à tous les niveaux et se dérangent jusqu'à pénétrer la haute hiérarchie de ce pays. Mais nous voudrions bien préciser que parfois, les groupes armés manifestent leur bonne volonté de pouvoir quitter la Brousse, mais la déception provient de gouvernants. Il y a beaucoup d'exemples que nous ne pouvons pas larguer ici sur les antennes. Nous voudrions bien dire que le gouvernement prenne les responsabilités toutes les fois qu'il engage quelque chose. Aujourd'hui, nous avons combien de choses cumulées. Si on peut commencer pour les cas précis de l'Ituri, par exemple, où la présidence a envoyé les anciens seigneurs de guerre, ils ont travaillé. Le gouvernement s'est tué alors que la CODECO avait quitté la Brousse. Après, on a nommé PDDFS. Après, l'état de siège. Aucun processus. Aujourd'hui, c'est des consultations. Mais aucun de tout ce que le gouvernement crée n'arrive au bout. C'est ça qui met parfois à mal de positionnement. Tout le monde, on ne sait pas à quel sens se vouer.
Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, selon vous?
Le gouvernement, tout ce que le gouvernement doit essayer de faire maintenant, c'est de donner les moyens au PDDRCS et observer si les groupes armés ne peuvent pas commencer à quitter la Brousse. Le chemin pour faire 1000 kilomètres commence par 1 kilomètre. Si il permet une personne à quitter la Brousse, deuxième, troisième, sans, les autres vont se dire, mais nous on souffre, pourquoi? Il n'y a pas de danger, on peut sortir. C'est tout ce que nous, la paisible population, ou alors l'idée d'opinion, sommes en train de demander au gouvernement congolais.
Didier Bitaki, on va se rendre à Goma pour prendre pour vous aussi cette réaction.
Maître Francis Vissot depuis Goma. À mon niveau, je trouve que la RDC affronte souvent cette question des groupes armés régnant à l'est du pays en position de faiblesse. Nous sommes restés depuis longtemps dans des discours infructueux, des mécanismes conjoints de vérification des frontières et des négociations, etc. Seule la solution militaire mettra fin à ces aventures de mauvais goût qui emportent malheureusement la vie des populations innocentes.
La solution est militaire, selon cet auditeur, Didier Bitaki.
La solution est militaire, on l'a déjà tenté plusieurs fois, de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que lorsqu'on n'a pas, de base sur lesquelles on fonde son armée, on ne peut pas s'engager dans une guerre. Quand on va vers les groupes armés, on dit « je vais vous faire la guerre ». Il faut assurer ses arrières. Mais lorsque vous avez la même armée qui est totalement, disons, qui est le plus souvent accusée de collaborer avec les mêmes groupes qu'elle combat, comment est-ce que vous allez gagner la guerre? Je pense ces expériences ont déjà été tentées et se sont révélées vaines ou infructueuses. Ce qu'il faut pour le moment, c'est un engagement sérieux de la part des institutions. La première des choses, c'est qu'il faut régler le problème en interne. Donc, réorganiser les structures chargées de la prise en charge des questions des groupes armés pour leur désarmement effectif et leur réinsertion et éviter surtout le contact qui se font le plus souvent entre les officiers et les groupes armés dans le but d'obtenir des intérêts pécuniaires, vous le savez. Ça doit être banni et il faut un mécanisme au moins plus fort et plus puissant qui puisse peut-être s'occuper de cela pour punir et sanctionner les auteurs de certains actes de connivence avec les groupes armés. Mais sur le plan militaire, je ne pense pas que ce soit alors la solution, sinon il n'y aurait plus de massacres à Beni, il n'y aurait plus de massacres à Ituri, il n'y aurait plus de combats au sud Kivu. Ça, c'est une solution qui a déjà montré ses limites. D'autre part, le problème, surtout du nord Kivu, est créé par le voisin. Le mauvais voisinage, je parle du Rwanda et de l'Ouganda qui ne jouent pas un fange. Ils vous disent que bon, voilà, vous avez les M23 ou les CNDP aujourd'hui, vous devez les intégrer au sein des forces armées parce qu'ils ont posé cette revendication. Dans l'entretemps, on les soutient militairement. Cela révolte les autochtones, révolte les autres qui savent manier les armes et on les amène à reprendre les hostilités pour qu'on revienne encore sur le même problème ici. J'insiste sur le fait que le gouvernement congolais n'a jamais compris le problème. Dès qu'il aura compris le problème, je pense que il proposera des solutions adéquates.
Professeur,
notamment,
merci.
Discuter directement avec ce pays Rwanda et Ouganda en leur demandant que messieurs retirez vos éléments de la RDC, y compris vos groupes respectifs. C'est comme ça que ça va se résoudre.
Merci, vous l'avez dit déjà tout à l'heure. Professeur, nous sommes à la fin de notre émission. On a suivi le coordonnateur du Barza intercommunautaire qui insiste pour que le PDDRCS soit opérationnel et qu'aucun criminel ne soit récompensé à travers l'armée nationale. C'est aussi les souhaits de beaucoup de Congolais. Est-ce que vous rassurez qu'aucun criminel ne sera reversé dans l'armée?
Madame, je le confirme et je pense que le message est passé clairement auprès des groupes armés et même des leaders de communauté qu'il n'y aura aucun membre de groupe armé qui sera automatiquement intégré dans l'armée. Nous leur avons dit que pour ceux qui sont des Congolais et qui veulent servir sous le drapeau de la République, ils suivent le processus de recrutement normalement. Ça veut dire ils commencent à zéro, notre armée a toute une commission de recrutement. En fonction des critères qui sont là, ils peuvent intégrer l'armée normalement à zéro. Mais quant à dire, voilà, j'étais colonel, je veux être colonel, ou major, général, ça, le chef de l'État l'a dit clairement, et je peux vous dire que j'ai participé à un des conclaves des chefs d'État, il a même dit à ses homologues qu'il n'est plus question d'avoir une intégration dans l'armée. L'intégration ici, d'ailleurs le PDDRCS, c'est l'intégration communautaire. Ça veut dire comment réintégrer ces ex-combattants, ces ex-soldats dans la vie nationale. Okay, pas forcément dans l'armée, pas forcément dans les forces de sécurité. Et je crois que le message a été clair. C'est vrai, il y a certains qui sont venus avec des désidératas, qui demandaient des reconnaissances des grades, des reconnaissances, et nous leur avons dit clairement. Parce que le problème également, mon frère Didier Bitaki, qui s'appelle expert, et entre-temps qui dit qu'ils ont fait quelques opérations avec l'ancien ministre Tshibanda, mais si cette expertise-là, ok, nous avait amené des solutions, aujourd'hui nous n'aurons même pas cette discussion sur ce plateau, madame. Okay? C'est parce que le chef de l'État est en train de chercher des solutions à ramener la paix à l'est du pays qui montre que tout ce qui a été fait dans le passé n'a vraiment pas réussi. Si ce n'est pas d'ailleurs que c'est le passé qui a même créé cette situation dont nous nous trouvons aujourd'hui.
Alors très rapidement, professeur Serge Tshibangu, pourquoi avoir fait le choix ou choisi Nairobi pour ces consultations?
Eh ben, pour la simple raison qu'il y a eu deux conclaves donc, des chefs d'État et deux options ont été levées qui sont ressorties de là. La première option, c'est l'option politique, qui est chapeautée, elle, par le président Uhuru, qui est le président d'exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, et l'option militaire, qui reste sur la table, qui est chapeautée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est à ce titre-là, donc, que le président Uhuru avait offert la facilitation, avait offert notamment des bons offices pour nous permettre de pouvoir discuter en toute quiétude. Mais en fait, ce que je dis aussi, c'est que la tournée que nous venons de faire à l'intérieur du pays n'est pas séparée, n'est pas isolée par rapport à ce qui a été dit à Nairobi, ce qui a été fait à Nairobi. Donc, ça fait partie, en fait, d'ailleurs, de la préparation même de Nairobi 2. Donc, tout ça, ce sont des étapes qui permettent en fait à préparer en toute quiétude le message qui doit passer auprès des groupes armés.
Merci, professeur Serge Tshibangu. Jean-Marie Ndjanza, vous avez 30 secondes pour conclure.
Merci beaucoup, madame. Nous pouvons demander au gouvernement congolais de pouvoir compter sur ses propres moyens et peaufiner tous les moyens possibles qui puissent lui permettre de faire déposer les armes au groupe d'autodéfense. Et tout en tenant compte de ces groupes armés étrangers qui poussent les locaux à pouvoir se prendre en charge, notamment pour le cas, par exemple, de l'Ituri, il y a une population qu'on appelle Banyabwisha, dont on ne connaît pas l'origine, et qui empêche les gens qui pouvaient rendre facilement les armes à pouvoir le faire et entrer et de commettre des exactions, de refouler la population.
Merci Jean-Marie Djanza. Didier Bitaki, vous avez aussi 30 secondes.
Oui, moi je pense que le processus de paix et de DRC est un mort-né. Ça c'est un des deux. L'autre problème qui consiste à jeter les responsabilités sur le passé, notamment le régime passé, ne permettra jamais à résoudre le problème de l'Est du pays parce que c'est le même discours, le même langage et les mêmes acteurs qui ont empiré cette situation, qui sont encore de retour dans les institutions pendant que on s'est battu pour y mettre fin. Mais malheureusement, on a en face les mêmes acteurs qui ne peuvent jamais permettre que la paix soit rétablie.
Merci Didier Bitaki.
Le gouvernement congolais doit chercher à résoudre son problème avec ses voisins avant d'entamer la question de l'intérieur.
Merci. Sinon, Didier Bitaki, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Seboujangwe et Alex Essomé. Présentation et coordination Kéline Kouté. La mise en onde était assurée par Billy, merci. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.